Les coulisses du grand reportage, c'est avec le médiateur de Radio France aujourd'hui. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Olivia Ferrandi, bonjour à tous.
Ce samedi, vous recevez Jérôme Jadot, grand reporter à France Info, qui vient juste de rentrer du Kurdistan syrien après avoir réalisé plusieurs reportages, des séquences que vous avez pu entendre d'ailleurs cette semaine sur France Info. Et c'est l'occasion pour vous, Bruno, de répondre aux auditeurs qui considèrent qu'il n'y a pas assez de reportages sur certaines zones de conflit.
En effet, des auditeurs nous le reprochent. Il est normal pourtant qu'un média refuse d'envoyer journalistes et techniciens dans des zones où les risques d'enlèvement ou de mort sont très élevés. D'autres territoires sont un peu moins dangereux, mais pas toujours faciles d'accès. Jérôme Jadot, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs ont pu écouter tout au long de la semaine vos interventions, vos reportages du Kurdistan syrien, mais ils ont aussi envie de connaître les coulisses. Alors comment se rend-on dans ce territoire qui n'a pas d'existence reconnue ?
Alors, c'est long d'abord, hein. Il faut compter
ouais,
à peu près 48 heures. Donc, vous l'avez dit, on n'est pas dans un État, donc il n'y a pas besoin de visa syrien, même si on est sur l'ancien territoire, en quelque sorte, de la Syrie. Mais il faut quand même des autorisations. Il faut notamment, ça se passe par mail, on envoie un mail aux autorités de la région autonome de ce nord de la Syrie. On envoie des mails aussi aux postes de frontières. Pour s'y rendre, il faut passer par le Kurdistan voisin, le Kurdistan irakien. Pour ça, il y a deux options. Soit on va à Bagdad, ensuite à Erbil, la capitale du Kurdistan syrien, et ensuite on se dirige vers le Kurdistan syrien. Ça, c'est un peu parfois compliqué ou long parce qu'il faut obtenir un visa irakien qui est un peu incertain. L'autre option, l'autre route, c'est de passer par le sud de la Turquie. On rentre au Kurdistan irakien et ensuite on peut rentrer au Kurdistan syrien. Ça se passe au poste frontière qui s'appelle Feshrabour. On est sur le bord du Tigre. Là, on fait les formalités administratives. On prend une petite barque, on traverse le fleuve, on arrive à l'autre poste de frontière. Là, c'est pas fini. Il faut compter 2 à 3 heures de route. Donc, on s'est arrangé avec un chauffeur. On traverse champs de pétrole, des champs de culture aussi. C'est le grenier à blé de la Syrie, cette région. Il y a quelques moutons qui pèsent et on arrive dans une ville qui s'appelle Amouda. Là, on fait les formalités pour avoir les autorisations de travailler en tant que journaliste. Il y a beaucoup d'autorisations à obtenir pour se déplacer. Il faut aller voir la police. Il y a énormément de checkpoints sur toutes les routes. On est quand même dans une zone encore en guerre hein, pour certains endroits, notamment au sud. Globalement, on est plutôt bien accueillis. On peut parler avec les gens. Il y a d'ailleurs tout le temps un cérémonial. On arrive dans un bureau, on a le thé, le café avant de pouvoir obtenir le rendez-vous qu'on a sollicité.
Donc on sait recevoir. Cela reste quand même, comme vous le disiez, une zone de conflit. Alors quelles précautions prend-on pour limiter les risques ?
Alors ça se passe surtout en amont. On essaye de mesurer quels sont les risques sur place, quelle est la situation. Ça se passe on passe des coups de fil aux collègues journalistes qui se sont déjà rendus sur place. On appelle aussi des fixeurs, ce sont des gens avec qui on travaille localement.
Vous en aviez un, vous ?
J'en avais un, oui, bien sûr. C'est très précieux, c'est indispensable dans ces pays-là. D'abord parce qu'on ne parle pas la langue. Donc moi, j'avais un fixeur qui parlait et kurde, et arabe, et anglais. On communiquait en anglais entre nous. On peut prendre contact également avec les autorités locales pour se signaler. Et puis, une fois qu'on est sur place, eh bien, on essaye de limiter au maximum les risques. Alors là, quels étaient les risques ? Par exemple, dans la ville où je logeais, Kamishli, c'est une zone où certains quartiers sont encore contrôlés par le régime syrien, notamment autour de l'aéroport ou même au centre-ville. Donc, il faut éviter d'aller près de ces quartiers pour ne pas se faire contrôler, éventuellement avoir des soucis, voire se faire expulser, parce qu'on a, je vous le disais, on n'a pas de visa syrien. Quand on se rend sur le front, en l'occurrence le front de Deir-ez-Zor, qui est plus au sud, là, il y a d'autres risques, plus militaires. Là, il faut déjà, avant de partir, bien avoir pris connaissance de quelle est la situation sur le front. On essaie d'y aller avec quelqu'un qui connaît la zone, qui est déjà allé, parfois des militaires. Et puis, on évite de rouler de nuit. Donc, parfois, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, là, on avait 6 heures de route à l'aller. On est resté 1 heure sur place. On est rentré. Et puis, y a les risques, c'est quoi ? C'est les risques d'une zone de front. C'est
les mines aussi, non ?
Alors, il y a des mines essentiellement à Raqqa. Raqqa a été très minée. La zone autour de Deir-ez-Zor, apparemment, a été moins touchée par les mines, mais il y a voitures piégées, notamment c'est arrivé sur des QG, je me suis rendu dans un QG, c'est arrivé plusieurs reprises que des voitures piégées qui soient envoyées contre les QG, il y a les roquettes, on a beaucoup parlé des drones qui lancent des grenades, et puis sur ce front-là, le risque plus spécifique, c'était que le front avançait très vite. Par exemple, le jour où je suis arrivé, ils avaient avancé de 800 mètres. Et du coup, ils avancent tellement vite qu'ils oublient parfois des djihadistes derrière. Ou les djihadistes ne se rendent pas compte qu'ils sont passés derrière la zone de front. Donc, ils restent, on peut se croire en zone kurde et il y a encore des djihadistes. En l'occurrence, là, dans une mosquée, il y avait 5 djihadistes qui étaient restés. Les Kurdes ne le savaient pas, ils sont entrés. Il y a un des commandants qui s'est pris 3 balles dans le temps.
Alors, vous avez été envoyé au Kurdistan pour évoquer ces Français djihadistes, leurs femmes, leurs enfants, détenus par les autorités kurdes. Ça a été facile de mener cette enquête sur place ?
Alors, il y avait deux objectifs dans cette enquête. Premier, c'était d'essayer d'obtenir une rencontre avec un djihadiste, une épouse de djihadiste, pour essayer d'appréhender pourquoi est-ce qu'il se
fait ce choix, des Français,
pourquoi, qu'est-ce que c'était la vie locale, dans quel état d'esprit ils sont actuellement. Alors, il y avait des réserves aussi, dans quelles conditions est-ce qu'on accepte ou pas une interview, masquée, menottée, c'est des gens qui sont retenus ou détenus. Donc voilà, ça, ça n'a pas été possible, c'était bloqué. Par le passé, il y a eu des interviews qui ont été accordées par les autorités kurdes, l'accès a été autorisé. Là, il y a manifestement un blocage. D'après ce que j'ai compris, les autorités françaises ont demandé à ce qu'il n'y ait plus d'accès aux détenus pour le moment. J'ai malgré tout pu rencontrer très brièvement
une Française.
Voilà, ça se passe au camp de Rodge, c'est un camp déplacé. Ça s'est passé de manière un peu fortuite. J'étais en train de parlementer, en tout cas de faire les demandes d'accès au camp, qui sont toujours refusées aux journalistes. Donc ça se trouve, ça se passe à l'entrée du camp. Et là, je vois une jeune femme qui patiente. Elle a un ventre très rond, on voit qu'elle est enceinte. Et je savais qu'il y avait une Française qui était enceinte dans le camp. J'avais eu des contacts avec un émissaire de Human Rights Watch qui m'avait dit qu'il y avait une femme enceinte. Donc, Je m'approche d'elle, on discute, voilà, elle commence à me raconter un petit peu son parcours, mais là, très vite, au bout de 2-3 minutes, il y a le directeur du camp qui intervient et qui nous sépare. Et voilà, on n'a pas pu accéder à ce camp où il y a donc au moins 6 Françaises et une 15aine d'enfants français.
Bon, en tout cas, on est d'accord avec les auditeurs. Rien ne remplace les reportages sur le terrain.
Oui, et il y a une personne qui est indispensable à ces reportages et qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, ce sont les techniciens. On travaille vraiment en binôme. Là, j'étais avec Eric Audra. On prend les décisions ensemble. Ils sont vraiment indispensables à ce travail de terrain pour tout ce qui est prise de son, prise de vidéo maintenant, et puis également assurer toutes les transmissions. Quand on fait des directs, par exemple, de n'importe où dans ces zones, parfois, on s'arrête en voiture, on se pose à côté, on fait des directs. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe avec le journaliste et le technicien.
Il fallait en effet bien le préciser. Merci Jérôme Jadot, grand reporter à France Info, de retour du Kurdistan syrien.
Et merci à vous Bruno Donas, médiateur des antennes, médiateur.radiofrance.fr. C'est l'adresse pour vous écrire. À la semaine prochaine.